partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Maugé.
Axel Maugé, qui fut professeur à l'Université de Montréal et qui est auteur d'un essai intitulé « Gaston Miron, une passion québécoise », présente sur cette exceptionnelle chantre du Québec une série de 4 émissions. Voici la première de ces émissions. Les 3 autres sont disponibles dans notre médiathèque en écoute et en libre téléchargement.
Gaston Miron, poète apprécié de nombreux francophones pour son œuvre forte, originale, humaniste, est devenu au fil du temps un véritable phénomène littéraire et national que l'on peut certainement rapprocher d'une autre belle figure, celle du poète russe Alexandre Pouchkine. Tous les deux n'ont-ils pas su rendre leur fierté à leur pays? Miron, le subversif, qui fut emprisonné durant les événements d'octobre 1970, accueille assurément plusieurs traits du héros romantique. Près d'un siècle après, n'a-t-il pas poursuivi d'ailleurs, à sa façon, le cheminement patriotique d'un Octave Crémazie. Octave Crémazie, poète canadien du XIXe siècle, chantre du nationalisme. Dès le début des années 1950, Miron essaie de soulever la chape colonialiste qui étouffe son pays. À cette époque, il considère que l'on respire mal au Canada français, alors il devient naturellement la respiration des siens. Hésitant au début, son homme rapaillé, c'est le titre de son grand recueil, l'homme rapaillé, c'est-à-dire l'homme rassemblé, se transforme peu à peu en militant. Avec une volonté de faire, ce rassembleur aidé par quelques amis crée alors la maison d'édition L'Hexagone en 1953, avant de jouer progressivement un rôle prépondérant dans la constitution d'une littérature nationale québécoise qu'il saura faire aimer autant chez lui qu'à l'étranger. Nul doute qu'il est aujourd'hui le poète québécois le plus connu dans le monde. Son œuvre majeure, L'Homme rapaillé, a en effet été diffusée à autour de 100 000 exemplaires. Un chiffre énorme dans le domaine de l'édition poétique. Ses poèmes sont d'abord l'histoire d'une survie. À force de lire et de relire les différentes parties de ce recueil puissant, le portrait d'un personnage déchiré, déchirant, et à travers lui celui d'un peuple, fort émouvant apparaît. Soucieux bien avant d'autres de résister à l'uniformisation mondiale et à l'anglicisation rampante jugée néfaste, Miron se range d'emblée dans le groupe des poètes qui, du mouvement de la Pléiade aux poètes français de la Résistance, sans oublier ceux de la décolonisation, ont défendu le territoire inaliénable de l'homme, c'est-à-dire le territoire de la liberté et de la conscience. En 2006, son œuvre accueille-t-elle ce qu'il y a de plus précieux dans la nouvelle identité québécoise ? Mieux qu'aucun autre créateur, il est identifié, sans hésiter une seconde, à cette terre du Québec, trop longtemps isolée, souffrante, dominée, humiliée. Ce rassembleur enthousiaste s'est volontairement sacrifié, comme il a sacrifié une partie de son œuvre, pour permettre à la culture québécoise non seulement d'exister, mais encore d'être pleinement reconnue. On ne saurait comprendre la trajectoire du militant Miron si l'on n'a pas ressenti au tréfonds du cœur une certaine humiliation ethnique. Compte tenu des conditions plutôt difficiles qu'il a vécues, le mérite du poète est immense, puisque, plongé au cœur du continent le plus capitaliste de la planète, il n'a pas hésité à crier sa détresse, et ce, afin d'inciter les siens englués dans l'abondance captive, à se ressaisir, à se battre pour ne pas disparaître dans l'uniforme et l'indistinct. En vérité, le poète s'est sacrifié pour que des êtres vivants, empêtrés dans un univers réducteur, ce qu'il appelle un emploi de mort, vivent mieux, c'est-à-dire pour que le fondamental se renforce et que la société s'humanise en refusant les nombreuses aliénations. Créateur d'un véritable réseau poétique, style CNN, au service de l'intelligence et de la sensibilité, il a su convaincre une partie de l'élite, les meilleurs, de se détourner d'une existence médiocre, jugée injuste. Dans le renouveau du Québec, son rôle a donc été essentiel. À l'origine, lui le démuni, fils accablé d'une Amérique marginalisée, car abandonné en partie vaincu, à moitié conquise, plus d'ailleurs dans l'ordre du spirituel que du matériel, il a cherché d'instinct chez les meilleurs poètes québécois et étrangers qui l'ont précédé ce qui pouvait lui servir à accroître son univers culturel. Avec quelques autres de peine et de misère, il a rassemblé tout un savoir absent jusque-là. Rien d'étonnant alors que grâce à son génie qui lui a permis d'organiser la lutte quotidienne, de grands thèmes transportent son œuvre. Parmi eux dominent entre autres l'amour, la liberté, l'identité, la libération individuelle et collective. Et puis au cœur de des plus belles pages apparaît le souvenir si présent, à la fois sublime, transparence et héritage stylistique fécondant des œuvres de Grandbois, poète canadien, d'Éluard, de Desnos, poète français, si poignante dans l'ordre amoureux, ou encore celle d'Apollinaire, si musicale dans l'ordre du langage. Miron le Magnifique, pour reprendre la formule du poète Jacques Brault, est assurément un auteur stratégique, devenu un point de référence, un astre pour tout un peuple, vite séduit par la force bondissante d'une œuvre pleine de vitalité, de richesse et d'universalité. Il nous reste maintenant à ne pas oublier les qualités du personnage, de l'ami perdu, il est mort en 1996, les témoins existent, du poète lumineux, dont il faut mieux découvrir l'œuvre en ses nombreuses ramifications. On ne saurait se tromper en affirmant qu'il appartient à la mouvance royale des grands poètes de la francophonie mondiale. Il est sans nul doute le compagnon de Supervielle, de Grandbois, de Claudel, de Perse, de Michaud, de Césaire, de Senghor, de Glissant, pour ne citer qu'eux. L'accueil exceptionnel réservé à l'œuvre de Miron symbolise d'une part la renaissance d'un peuple courageux et d'autre part le triomphe des pouvoirs inouïs méconnus de la poésie. Le politique a peut-être raison d'ignorer, pour sa propre sauvegarde, la puissance de la parole poétique, puissance confirmée par l'aventure étonnante de l'Hexagone, mouvement littéraire, maison d'édition, que vous retrouverez dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle « La poésie moderne québécoise », deuxième édition aux éditions Humanitas en 1989. La première édition date de 1972 aux presses de l'Université Laval, c'est que la poésie s'avère un virus d'une efficacité redoutable, car souterrain, pour contester le système établi répressif, bureaucratique, déshumanisé, qui essaie de diluer l'univers de la création. Personne, à ma connaissance, n'a encore analysé de façon rigoureuse le poids, l'espace, l'impact du poétique dans le phénomène de la construction de la liberté et de la démocratie. Des pistes existent cependant. De 1953 jusqu'à aujourd'hui, le combat exemplaire de Gaston Miron a en effet stimulé les esprits et les consciences. La réussite de ce combat âpre, dur, difficile est celui d'une génération qui a réussi pour la première fois, semble-t-il, à rassembler les fils historiques éparpillés jusque-là. Grâce à l'œuvre inventive, à l'action concrète de Miron, les multiples efforts accumulés depuis des décades ont soudain abouti. Les Québécois ont enfin réussi à rassembler les éléments épars de leur identité. À présent, la culture québécoise vogue, soucieuse d'indépendance, de souveraineté, d'autonomie, même si, ne le nions pas, des menaces sérieuses pèsent sur son avenir, sur son devenir. Il est cependant intéressant de constater que la société québécoise qui souffrait dans son idéal s'est reconnue soudain dans la figure d'un poète, en vérité un homme de grand courage. Ce bison, Miron, coureur, belle figure, la figure du bison, belle image symbolique dans l'œuvre L'homme rapaillé, ce bison Miron, coureur de longue haleine, plus croquant que mousquetaire du roi et surtout pas de la reine, a été, et le reste, il le reste, avec quelques autres et la foule innombrable des anonymes qui ne céderont rien de leur identité, la colonne vertébrale du renouveau québécois. Grâce à sa quête exemplaire et à celle d'autres poètes qui ont été profondément remués par son action et stimulés par sa rage de vivre et sa volonté de vaincre un univers plutôt hostile, la langue française du Québec a creusé avec acharnement sa route créatrice. Miron, ce n'est rien d'autre que la goutte de sang venue de la France amie, la vieille France, même lointaine, qui s'est incrustée dans la neige du Québec, la nouvelle France. Elle a fait tache. Elle s'est répandue, elle rayonne à présent cette goutte de sang, couleur vivace au service de l'envol, de la résistance et de la vie. Je vais maintenant donner quelques repères chronologiques de la vie de Miron. Naissance en 1928, un 8 janvier, à Sainte-Agathe-des-Monts du poète québécois. En 1940, une date importante dans sa vie, la disparition de son père. Sa mère, une femme courageuse, élève seule ses 5 enfants. En 1947, il arrive à Montréal et de 1947 à 1954, il exerce des métiers peu lucratifs, instituteur, commis, barman, secrétaire, etc. En 1949, il découvre la poésie moderne. Sandy Garneau, poète canadien bien connu, René Char et Patrice de la Tour du Pin, poète français. En 1953, il fonde la maison d'édition L'Hexagone avec 5 amis. L'aventure durera une trentaine d'années. Publication avec son ami Olivier Marchand de 200, un recueil de poèmes, donc 200, 100, S-A-N-G-S, et un recueil de poèmes, et bien entendu, son premier recueil de poèmes. 1954, il commence à rédiger plusieurs de ses principaux cycles poétiques, La vie agonique, La marche à l'amour et La batèche. 1955, il apprécie la poésie d'André Fresneau et celle d'Aimé Césaire, en 1955, laquelle lui révèle sa condition de colonisé. 1957, dans la presse, le grand journal de Montréal, il publie un article qui s'intitule « Situation de notre poésie ». En 1959, il participe à la fondation de la fameuse revue Liberté. Départ pour la France la même année. Il rencontre des poètes français tels que André Fresneau, Eugène Guy Vic, Robert Marteau, Michel Deguy, Édouard Glissant, poète martiniquais, Maurice Roche. 1962, il rencontre Jacques Berck, qui devient un ami. Jacques Berck, fameux professeur du Collège de France, auteur de bien des livres sur le monde arabe. 1963, il participe à l'aventure de la revue Parti pris qui s'arrêtera en 1968. 1966, Jacques Brault, grand poète québécois, prononce à l'Université de Montréal une conférence intitulée « Miron le Magnifique ». 1968, il participe à de nombreux spectacles poétiques. 1970, en octobre, il est arrêté avec 350 autres Québécois à la suite de la promulgation de la loi des mesures de guerre. La même année, il reçoit le prix France-Canada pour l'homme rapaillé. Il reçoit ensuite de très nombreux prix littéraires. Puis en 1993, il reçoit les insignes de commandeur des arts et lettres de la République française. En 1994, séjour au Brésil à l'occasion de la sortie de la traduction portugaise de l'homme rapaillé. 1995, il reçoit un doctorat honorifique de l'Université de Montréal. 1996, le 14 décembre, il s'éteint à l'âge de 68 ans des suites d'un cancer. Le 21 décembre, chose jamais vue au Québec, obsèques nationales à Sainte-Agathe-des-Monts, il est le premier écrivain québécois à recevoir cet honneur. 1999, les premiers livres sur Gaston Miron sortent, notamment un livre qui s'intitule « Gaston Miron, une passion québécoise », donc aux éditions Humanitas. Vous pourrez retrouver la suite de ce premier volet, de cette première partie, en médiathèque.